franceinter.fr.
Bonjour à tous. Une petite devinette ce matin. L'un en est de corps et d'esprit, l'autre n'en a que les bras. Qui suis-je ? Réponse : l'ENA, l'École nationale d'administration. Des deux candidats engagés dans la course à la présidence de la République ce dimanche, l'un est sorti de ses rangs, c'est Emmanuel Macron. Pas l'autre, mais Florian Philippot, le numéro 2 du Front National, est un énarque, de même que l'un des principaux artisans du programme de Marine Le Pen, Jean Messia. Depuis sa création en 1945 par le général de Gaulle, l'ENA est associée à l'exercice du pouvoir en France. Elle a donné trois présidents à la République, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac et François Hollande. Dans les cabinets ministériels, on ne compte plus les énarques à l'influence considérable. Et puis l'ENA figure aussi dans les sommets du classement mondial pour le nombre des grands patrons d'entreprises qui sont passés sur ses bancs. Mais elle cristallise aussi beaucoup de critiques. Formation élitiste pour milieux privilégiés, formatage des esprits, carriérisme. En ce jour de scrutin présidentiel, nous avons donc voulu pousser les portes de la prestigieuse école. Seul problème, la direction de l'ENA nous a fermement éconduits en estimant que les temps ne se prêtaient pas à l'exercice. C'est donc de l'extérieur de ces murs que Pascal Pascariello esquisse ce portrait. Un portrait largement illustré par les extraits d'un téléfilm qui remonte à quelques années déjà, consacré à une promotion contestataire de l'école. Ça existe. ENA, le miroir de la République.
Interception, le magazine de la rédaction.
Nous l'avons tous connu, ce fonctionnaire qu'on retrouvait dans toutes les administrations, ce fonctionnaire vieilli sous le harnais et encombré de toutes les manies et de toutes les entraves d'un fonctionnarisme désuet. Tout cela va changer. Pour former ces hauts fonctionnaires, la 4e République possède maintenant son école d'administration qui fournira des cadres parmi lesquels le gouvernement choisira ceux qui occuperont les emplois d'autorité où l'administration rejoint la politique. Ces futurs fonctionnaires devront avoir les qualités d'initiative, d'énergie et de décision qu'exigent ces emplois. Et c'est un signe majeur de renouvellement qu'on ait fait du sport un chapitre de leur programme.
Je passe le concours de l'ENA cette année, fin août.
Pourquoi vous voulez préparer l'ENA ? C'est quoi pour vous l'ENA ?
L'ENA, pour moi, c'est une... Donc c'est l'école pour la haute fonction publique et en tout cas c'est pour aider donc travailler pour l'État puisque je trouve que on est dans un monde où il y a plein d'incertitudes et je trouve que l'État a une fonction c'est un peu de stabilité et aussi de protection.
Moi un peu comme mon collègue via mes stages j'ai pu rencontrer des voilà, des énarques très brillants, très j'ai trouvé très ouverts et vraiment vraiment excellents. Voilà, il y a tout ce côté excellent, c'est le côté engagement aussi. Je pense que cette école c'est vraiment la seule et peut-être la meilleure pour ça, pour à la fois conjuguer une vraie rigueur intellectuelle et voilà, y être très tourné vers l'avenir, vers la solution à proposer. Mais je découvre qu'il y a une vraie, un vrai appétit de comprendre la réalité des citoyens, de répondre à leurs attentes, parce que c'est une école qui cristallise des critiques et du coup ça la fait avancer aussi et ça je trouve ça passionnant. Moi sur cette question, j'avoue que ce que j'apprécie justement dans la préparation à l'ENA, c'est qu'on est formé pour être des techniciens, j'ai l'impression. Au-delà de tous les clivages, au-delà de tous les... Voilà, il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas. L'État en France peut beaucoup, il peut pas tout. Mais voilà, on nous apprend à être techniciens sur des matières très précises qu'il faut connaître, qu'il faut comprendre. Et je pense que c'est important. On est avant tout des techniciens.
Si on devait retenir les deux, trois qualités qu'il faut pour un bon énarque.
Moi, je dirais rigoureux, humble et courageux.
Vous avez fait normal lettre avant de présenter le concours de l'ENA. Selon vous, la littérature a-t-elle encore une utilité dans le monde d'aujourd'hui ?
En ce qu'elle est un témoin de notre société et un outil de civilisation, oui, je le crois.
Que la normalienne nous donne l'étymologie du mot travail.
Travail vient du mot latin tripalium, un instrument de torture.
Un mot positif qui se termine en assi.
Démocratie.
Un mot négatif.
Phallocratie.
La majorité des étudiants qui présentent le concours de l'ENA ont été formés à Sciences Po Paris. La volonté de servir l'État est un trait commun à ces étudiants. Mais ce n'est pas le seul. Il y a 2 ans, le président du jury du concours d'entrée avait regretté en termes très vifs leur absence de sens critique et leur frilosité. La scolarité à l'ENA dure 2 ans. dont un consacré à des stages dans des ambassades, des institutions européennes, en préfecture et en entreprise.
Alors, je vais commencer par un exercice un peu scolaire. Je vais vous demander de vous présenter.
Je m'appelle Pierrick, j'ai 25 ans. Moi, mon parcours, je suis passé par Sciences Po, Master Affaires Publiques et ensuite, je suis entré à l'ENA. Et donc, à l'issue de l'ENA, j'ai fait partie de ceux qui ont été classés dans ce qu'on appelle la BOT, c'est-à-dire les 15 premiers. Et donc, j'ai rejoint un des trois grands corps, puisqu'il est convenu de les appeler ainsi. Donc, les trois grands corps, c'est le Conseil d'État, la Cour des comptes et l'Inspection des finances.
Merci, vous êtes sorti de l'ENA. Votre promotion, c'est
C'est la promotion George Orwell, celle qui est sortie en janvier 2017.
Je m'appelle Olivier, j'ai 35 ans et je travaille actuellement au ministère des Finances.
On commence avec un stage qui est globalement un stage diplomatie ou Union européenne. Moi, pour ma part, je suis parti dans une ambassade, dans un territoire qu'on peut qualifier de difficile, ou en tout cas un territoire avec des enjeux. Et là, c'était vraiment passionnant puisqu'on est finalement on est dans la chancellerie diplomatique, donc on est finalement un diplomate avec les conseillers politiques et près du chef de poste, donc de l'ambassadeur. Le travail en poste diplomatique, c'est beaucoup de l'écriture de notes, c'est-à-dire faire remonter à Paris ce qui se passe sur le terrain, etc. On se déplace pour rencontrer les populations locales, s'il y a des enjeux humanitaires ou des choses comme ça. Donc c'est 4 mois, on passe 4 mois dans le pays en question, et c'est une expérience qui est à la fois très formatrice et en plus humainement très forte. Très forte. Enfin, on dit souvent que les énarques connaissent rien au terrain ou à la vraie vie. Ce genre d'exemple, et avec aussi le stage en préfecture, montre que c'est quand même plus compliqué que ça. On voit des choses importantes quand même.
Vous n'êtes pas seulement, j'allais dire, dans les réceptions de monsieur l'ambassadeur, voilà.
Ah, pas du tout. On les fuit un peu quand même, les réceptions de monsieur l'ambassadeur, parce que c'est assez ennuyeux. Non, ce qu'on aime, c'est le travail au quotidien. Ouais.
En dehors des stages, la deuxième année de l'ENA est consacrée à des conférences que les élèves suivent à Strasbourg. Les énarques de la promotion George Orwell portent un regard très critique sur ce type de formation.
C'est une constante. Les gens qui sortent de l'ENA se plaignent de l'enseignement. Je pense que la problématique principale, c'est qu'il n'y a pas de professeur. Et ça veut dire qu'on n'approfondit pas les sujets, puisque c'est en fait une suite de conférences, des gens qui ne viennent qu'une seule fois, à part peut-être pour l'enseignement de la légistique, qui est l'art d'écrire la loi, la légistique. Mais autrement, sur tous les autres sujets, c'est des gens qui viennent pendant 3 heures et qu'on ne revoit plus jamais. Donc il ne peut pas y avoir en fait de construction d'un enseignement, il ne peut pas y avoir d'approfondissement, et donc c'est une espèce de vision impressionniste d'un certain nombre de sujets qui est assez décevante. Et à l'issue de l'ENA, beaucoup de gens ont une formation complémentaire parce qu'ils considèrent que la formation de l'ENA n'est pas suffisante. C'est-à-dire que si vous sortez de l'ENA et que vous devenez juge administratif, il y a 6 mois supplémentaires puisqu'ils considèrent que la formation de l'ENA n'est pas suffisante. Si vous devenez magistrat financier, vous avez une formation de 3 mois pour vous expliquer quel va être votre métier. Nos prises de poste sont parfois assez difficiles à la sortie de l'ENA parce qu'on a passé 2 ans, mais on n'a pas été forcément très bien préparé.
Et c'est aussi pour ça qu'on conteste beaucoup le fait que l'ENA n'apporte pas toute la diversité de vues qui est nécessaire finalement. Si les gens n'ont pas des loisirs personnels, des lectures personnelles, des choses qui font qu'ils absorbent d'autres points de vue que celui qui est dispensé à Sciences Po et à l'ENA, effectivement, c'est un problème. Parce qu'il y a effectivement une forme de pensée qui est véhiculée par ces institutions qui sont structurellement un peu conservatrices. C'est-à-dire qu'on a des gens expérimentés, qui ont 30 ans de carrière, qui viennent parler d'un sujet. Forcément, ces gens-là ont tendance à parler du sujet comme on a toujours fait comme ça.
On pourrait prendre un sujet d'économie, je ne sais pas, parce que j'ai l'impression que sur l'économie, c'est vraiment là une pensée unique.
En fait, c'est un exemple qui concerne toutes les réformes. C'est la question du creusement du déficit public et de l'augmentation de la dépense publique. Il est clair qu'à Sciences Po et à l'ENA, il y a une pensée économique qui consiste à dire que les déficits publics sont une mauvaise chose et que trop de dettes entretenues par trop de déficits, c'est délétère pour une économie. Peut-être, moi, en fait, très honnêtement, je ne le sais pas, je n'ai pas de formation en économie, et ce que j'aurais bien aimé, c'est justement qu'on ait une pensée un peu hétérodoxe économique à l'ENA, qui nous montre un peu les 2 alternatives, ou même les 3 alternatives, les 4 possibilités différentes de penser, pour qu'ensuite, moi, en tant que citoyen qui est quand même un cerveau, je puisse me faire une idée.
Effectivement, il y a des alternatives. En tout cas, il y a d'autres économistes qui pensent que l'endettement n'est pas un problème.
Y compris des économistes très, très reconnus. Si vous pensez à Joseph Stiglitz ou voilà, des gens qui ont dit de façon répétée que les politiques d'austérité pouvait avoir des effets négatifs. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille condamner par principe toute politique d'austérité. Ce qui veut juste dire qu'il faut aborder une question de politique publique sans a priori et sans partir du principe que la solution qu'on va donner à ce problème, c'est forcément une position d'austérité budgétaire.
À l'ENA, on nous apprend à répéter un peu les vieilles recettes qu'on a depuis plusieurs années. La majorité des évaluations, ce sont en fait des notes de synthèse sur un dossier. Et en fait, ce qu'on nous demande, c'est plus ou moins de répéter ce qui est dans le dossier. Et l'apport de connaissances personnelles ou l'apport d'idées personnelles, on nous le demande pas. Et ça peut être en fait très risqué de donner une opinion personnelle, puisque ça peut nous être reproché et ça peut nous faire avoir une très mauvaise note. Donc en fait, il y a une forme de conformisme demandé, il y a une sorte de formatage. Et ça, je pense que c'est un vrai danger pour la fonction publique, parce que les fonctionnaires pourraient croire après que ce qu'on leur demande, c'est de dire ce que l'administration pense. Et je pense qu'au contraire, le rôle d'un fonctionnaire, c'est d'essayer de montrer un champ de possible pour donner la possibilité aux politiques de choisir.
Il existe trois voies pour entrer à l'ENA. La première par le concours externe, qui est réservé aux étudiants passés dans leur majorité par Sciences Po Paris. En moyenne, ils ont 20 ans et sont issus en général de milieux aisés. La deuxième par le concours interne, qui s'adresse aux fonctionnaires déjà en poste dans une administration. Moins jeunes, la trentaine, ils viennent de milieux sociaux plus variés. Et enfin, la troisième voie, minoritaire, est ouverte à des personnes qui ont déjà travaillé 8 ans dans le privé ou en milieu associatif. En principe, tous les candidats sont sur un pied d'égalité. La réalité est un peu différente. Jean en a fait la triste expérience lorsqu'il a décidé d'abandonner son poste d'enseignant pour passer le concours.
Je m'appelle Jean, j'ai fait l'ENA il y a quelques années et j'aurai bientôt 40 ans. Moi j'étais déjà fonctionnaire depuis un certain nombre d'années, j'étais instituteur et également professeur. Je suis originaire d'un milieu moyen, classe moyenne.
Comment vous en êtes arrivé à vouloir présenter l'ENA ?
J'ai souhaité présenter l'ENA après avoir rencontré des énarques dans le cadre de l'exercice de mes fonctions. Et j'ai trouvé que les missions qu'ils accomplissaient étaient intéressantes.
Quel type de mission ?
Alors, les énarques, ils ont essentiellement des missions de pilotage, d'accompagnement des politiques publiques. Donc, après avoir été sur le terrain pendant plusieurs années, au contact des administrés, avec des missions qui faisaient vraiment sens par rapport au travail au quotidien, j'ai pris conscience des enjeux qui pouvaient exister au niveau systémique.
Jean, vous parlez vraiment comme un énarque.
D'accord. Ouais, j'ai bien compris, j'ai bien appris la leçon.
Ça s'apprend de parler comme ça, de tout complexifier ou pas ?
Oui, non, je pense que derrière l'idée de complexification, il y a l'idée d'avoir des propos neutres qui prêtent pas le flanc à des attaques. Voilà.
Donc, et du coup, on comprend rien.
On comprend rien, mais on ne fait pas d'erreur.
C'est dur ça justement, enfin bon après on continue sur l'interview, mais c'est dur de se séparer de cette façon de s'exprimer. Ça vous l'avez appris typiquement à l'ENA ?
Ce qui est difficile, c'est le choc culturel quand on est originaire d'un milieu de classe moyenne, de côtoyer des personnes qui pour l'essentiel sont issues de classes favorisées, voire très favorisées, et qui n'ont pas les mêmes codes. Et donc parfois le rapport à la vérité, le rapport au sens des mots n'est pas tout à fait le même selon les milieux dans lesquels on évolue.
C'est-à-dire par exemple ?
C'est-à-dire qu'à l'ENA tout est euphémisé, tout est présenté d'une manière qui permet de faire passer un message sans pour autant s'aliéner qui que ce soit. Et c'est parfois un peu incompatible avec ce que j'appellerais la vérité avec un grand V, ou l'honnêteté avec un grand H.
Comment ces deux années se passent pour vous ?
La première note, c'est une note à l'écrit, et je sors dans les 10 premiers de la promotion. Et donc ça s'annonçait bien. Et là, je prends mon premier poste en ambassade. Alors le stage en ambassade était très bien. Dans les derniers jours, l'ambassadeur me dit qu'il me place dans le premier tiers ou le premier quart des gens qu'il a vus. Et il en avait vu énormément. Et puis arrive une personne de l'ENA pour m'évaluer. Et cette personne s'est mise en tête que si j'étais dans les bonnes grâces de l'ambassadeur, c'était parce que j'étais homosexuel. Puisque quelqu'un de mon origine sociale ne pouvait pas être autre chose que mauvais, que finir avec une mauvaise note.
Est-ce que vous a été signifié ?
Alors c'est une réputation qui était la sienne depuis le début, hein, d'être quelqu'un qui était parmi les gardiens du temple, qui était là pour pas que l'ENA se diversifie en termes de classe sociale. Et puis il l'a dit quand on était dans la voiture de l'ambassade. Il a reçu un tweet de la directrice qui évoquait la question de la diversification sociale à l'ENA, et il s'est emporté contre la diversification sociale en disant que ça servait à rien, que c'était le début de la fin, et que cette directrice, elle faisait vraiment n'importe quoi. Enfin, un exemple de loyauté de haut fonctionnaire, comme j'en avais pas vu beaucoup dans ma carrière.
Et comment ça s'est passé là, à ce moment-là, pour vous ? Qu'est-ce que vous êtes dit ? Vous lui avez répondu ? Vous n'avez pas osé ? Enfin...
Moi je suis plutôt un garçon gentil et docile au début, donc je me suis dit que bon, ça faisait peut-être partie d'un rituel, qu'il fallait que j'apprenne à me soumettre. Bon, ça commençait quand même à me heurter, parce que venant de l'éducation nationale, j'étais quand même très sensibilisé aux questions d'évaluation. Et pour moi, une phase d'évaluation, c'est un moment de profond respect entre un évaluateur et une personne évaluée. Donc j'ai appris que j'étais parmi les derniers ou le dernier de la promotion sur ce stage qui s'était très bien passé. Alors d'abord, j'en ai parlé avec mon ambassadeur, qui était très choqué de ce qui s'était passé et qui a appris que j'avais eu la plus mauvaise note de la promotion suite à un stage qui s'était passé de manière parfaite pour lui. Et il m'a dit que c'était la première couleuvre que j'avalais dans ma vie de haut fonctionnaire et que ce serait pas la dernière. Et moi, j'ai pensé à ce moment-là que ma vie de haut fonctionnaire, elle risquait de s'arrêter assez vite, parce que j'avais pas l'intention d'avaler beaucoup de couleuvres comme ça. Avant de rentrer à l'ENA, lutte des classes, pour moi, ça me faisait vraiment rire. Pendant 2 ans, j'ai vécu la lutte des classes, vraiment. C'est-à-dire, j'avais l'impression d'être un pecno, et je suis sûr que c'est ce que pas mal de mes collègues pensent encore de moi, et ils ont sans doute raison. Je pense que sans être blessé, à un moment, j'ai été écorché dans cette énergie que je pouvais avoir à vouloir m'investir dans ce que je faisais. Par contre, j'ai retenu des leçons. Et je sais que j'ai pas ma place dans les salons parisiens. S'il faut mettre le petit doigt en l'air pour avoir voix au chapitre, c'est pas pour moi. Après, si on me parle d'efficacité et de transformer la condition des Français au quotidien, peut-être que je suis pas plus mauvais qu'un autre pour le faire. Peut-être que ma proximité avec le peuple est un atout. Mais je pense qu'il y a des choses qui, si elles ne sont pas dénoncées, à un moment, c'est vendre son âme, quoi. Moi, je ne peux pas laisser faire et me dire que pendant les 10 ans qui vont venir, il y a des petits gars comme moi qui viennent des classes moyennes qui vont se faire broyer parce que ils penseront qu'ils sont moins légitimes que d'autres qui viennent des classes supérieures pour s'occuper des affaires de l'État. Donc, il y en a un qui prendra, ce sera peut-être moi, mais au final, peut-être qu'on arrivera à avoir une classe dirigeante qui sera en phase avec la réalité.
Avenue de l'Observatoire à Paris. On va dire que c'est plutôt dans les très beaux quartiers de Paris. Et j'ai rendez-vous ce matin avec Nathalie Loiseau, qui est directrice de l'ENA depuis 2012 et qui me reçoit ce matin pour une interview à Paris et pas à Strasbourg, puisqu'elle n'a pas souhaité m'ouvrir les portes de l'école à Strasbourg. Donc, je vais la voir dans son bureau. Je vais vous demander déjà
de dire qui je suis, tout ça. Nathalie Loiseau, directrice de l'ENA, ça va, vous m'entendez ?
Oui.
Bon. Je vous entends. Est-ce que vous pouvez le faire, j'allais dire, de façon un peu plus scolaire ?
Bonjour, je m'appelle Nathalie Loiseau et je suis directrice de l'ENA depuis 2012. Oui, alors c'est une école, je ne suis pas la première à l'avoir fait bouger, hein. Elle a 72 ans, cette école. On a commencé par un état des lieux sans concession. Nos élèves ne sont pas représentatifs de la diversité de la société française. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Ce sur quoi on a beaucoup travaillé depuis 5 ans, c'est qu'on a une classe prépa intégrée qui prépare des jeunes avec un bon niveau d'études et un milieu social modeste à préparer le concours externe de l'ENA. Ça, aujourd'hui, ça marche bien.
Pour l'instant, le bilan de ces mesures n'est pas si positif que ça, hein. Des étudiants qui passent l'ENA, ils viennent majoritairement de Sciences Po Paris. C'est un président de jury de l'ENA qui fait lui-même le constat en 2015. Évidemment, il pointe du doigt une homogénéité du profil, catégorie professionnelle supérieure. Et il pointe du doigt également un certain conformisme, puisque effectivement, ils sont tous issus un peu de la même préparation Sciences Po Paris.
Alors, pas très loin. Il y a plein de questions dans votre question.
Ce que je voulais dire, c'est que le bilan, Madame Loiseau, n'est pas si positif encore en 2015. On a les mêmes profils, la même homogénéité.
Je veux dire, il est positif nulle part. Regardez.
Mais on parle de l'ENA, on parle pas des autres.
Non, on va parler des autres. Vous avez le droit de poser votre question, j'ai le droit de faire ma réponse. Regardez les statistiques en termes de diversité sociale de l'université. Regardez les écoles de commerce, regardez les écoles d'ingénieurs. Vous avez le même problème dans toutes les études supérieures longues. Il y a donc un vrai signal d'alarme. Ce pays, aujourd'hui, c'est moins bien qu'il y a 20 ans, emmener des gens de milieux modestes vers des études supérieures longues et exigeantes.
Est-ce qu'il faut avoir fait Sciences Po Paris pour avoir plus de chances d'être bien noté ?
Alors, on a aussi des élèves qui viennent d'autres préparations. Aujourd'hui, notamment dans les externes, la préparation qui est organisée par Paris 1 et Normal Sup est une préparation qui marche bien. On a un vrai sujet de préoccupation qui est le niveau de résultat des candidats qui sont dans les préparations en dehors de Paris. On va essayer de proposer un soutien à ces prépas en leur proposant des cours en ligne. Je ne sais pas du tout si ça va marcher. Moi, mon gros souci, mon gros sujet tel que je le vois, c'est il faut être à Paris pour préparer dans les meilleures conditions. C'est vrai pour les internes aussi. Hein, c'est la prépa parisienne des internes qui marche mieux que les prépas provinciales. C'est évidemment très injuste. Je le dis, j'ai pas de solution simple. Quand je reçois les élèves qui sont reçus, je les reçois un par un pour essayer de savoir qu'est-ce qui les anime. Et tous les ans, j'ai des trajectoires de méritocratie. C'est encore possible. Ce qui m'interpelle, c'est pourquoi pas plus.
Quand c'est un élève sur 80, pourquoi pas plus ?
C'est pas un élève, c'est... Non, c'est 10 élèves.
10 élèves sur 80 seraient donc issus de milieux non privilégiés. Nathalie Loiseau, la directrice de l'ENA, est quelque peu optimiste. En fait, ce serait plutôt 4 sur 80. Les rapports le confirment, chaque année, les enfants de cadres et de professions intellectuelles supérieures sont 4 fois plus représentés à l'ENA que dans la population active. Les enfants d'ouvriers, 8 fois moins.
Voici venu le temps des pillards, langage technocratique, langue de plomb. D'invisibles voleurs veillent dans les poignées de l'aube, d'invisibles voleurs font les poches de la vie. Les barbares sont venus aujourd'hui. Quelque chose tremble et meurt en moi, en nous.
Aline Baldacchino est sortie de l'ENA en 2009. Elle est magistrate à la Cour des comptes et anime aussi des rencontres autour de la poésie au Théâtre des Déchargeurs à Paris. Une passion qui nourrit son engagement et son sens critique. Il y a 2 ans, elle a publié La Ferme des Énarques. Ne rien entendre, ne rien dire, ne rien voir. C'est ainsi qu'elle y définit la devise de l'école personnifiée par les 3 petits singes, dont le premier se bouche les oreilles, le deuxième la bouche et le troisième les yeux. Aline Baldacchino estime que le comportement des énarques est indirectement responsable de la montée des extrêmes dans la société française. Elle en appelle à une profonde réforme de l'école.
comme il y a une colère et qu'elle est légitime, il y a deux façons de faire. Soit on continue à ne pas voir, ne pas entendre, ne pas parler, et ça va finir par exploser. Puis l'autre manière de faire, c'est de regarder en face ce qui va mal et de dire « Ok, on change de braquet, on fait autrement. » Et il ne suffit pas de parler des politiques, il faut parler de l'entourage des politiques. Et moi, je veux bien que Léna réponde sans arrêt, mais vous savez, il n'y a que 5% de nos anciens élèves qui occupent des fonctions électives. Ça, c'est vrai. Mais il faut regarder qui est autour des ministres, les entourages des cabinets. Les cabinets ministériels en France, c'est l'histoire, occupent une place absolument centrale dans le dispositif du pouvoir. Et ils sont pleins d'énarques. Et en cela, les énarques ont une responsabilité immédiate et directe dans la manière de concevoir l'action publique. Et je crois que si on veut que l'action publique retrouve un sens et une crédibilité pour les gens, ça passera par une refonte absolument drastique de la formation de tous les gens qui se retrouvent justement à ces fonctions-là. Je pense que l'ENA, tout simplement, ne se préoccupe plus des questions sociales et que c'est un problème fondamental et qu'on peut passer 2 ans à l'ENA sans jamais que soient abordés des sujets comme celui de la pauvreté, comme celui de la gestion des prisons, des sujets comme l'urbanisme, tous les sujets qui font le quotidien de la précarité. La précarité est un non-sujet aujourd'hui à l'ENA, parce que la plupart des élèves sont en stage à l'autre bout du monde, en train de se préoccuper de grandes questions de géopolitique internationale ou de macroéconomie, et du coup ne voient plus ce qui se passe devant leurs portes. L'école n'estime pas que le règlement de la question du logement et du fait que tous les jours en France, encore aujourd'hui, des gens meurent parce qu'ils sont à la rue, pose une question fondamentale. Et donc, quand je parle de revenir au terrain et de sortir de l'espèce de bulle dans laquelle l'école a plutôt tendance à enfermer ses élèves, c'est effectivement principalement des questions sociales que je parle, qui devraient revenir au cœur du programme pédagogique, tout simplement, de l'école. Et bon, ça m'a pris quelques années pour articuler l'idée qu'il y avait là un dysfonctionnement majeur et qu'on ne pouvait pas continuer à avoir une école qui forme des hauts fonctionnaires qui ne s'intéressent pas du tout à la réalité quotidienne des gens ou qui ne le fassent qu'à titre personnel dans ce qui leur reste de temps quand ils ne sont pas monopolisés par des absurdités de type orwellien, c'est-à-dire l'écriture de faux discours qui ne serviront jamais à personne, l'écriture de directives européennes que vous êtes censé rédiger en 4 heures enfermées dans une salle, chose qui d'ailleurs n'arrivera jamais dans la vie réelle. Donc les fameuses mises en situation de l'ENA sont complètement coupées du monde réel, voilà. Mais ça, vous apprenez à le faire, vous mobilisez une énergie complètement démente sur des sujets qui n'ont pas lieu d'être, alors que l'évidence, en revanche, c'est-à-dire l'évidence de la souffrance des gens, de celle qui motive la colère, vous n'avez pas de moyens, finalement, de vous sentir utile et de vous sentir capable d'apporter une réponse à ça.
L'observatoire des inégalités que vous prenez en exemple, c'est assez intéressant. Ouais.
Vous avez effectivement un observatoire des inégalités qui a pignon sur rue et qui avait produit il y a quelques années un évaluateur des dépenses publiques en montrant comment 46 milliards de baisse des prélèvements annuels en réalité auraient pu servir à financer tout un tas de choses. Parmi ces choses, je ne vais pas toutes vous les dire parce qu'il y en a énormément, mais c'était par exemple la rénovation et la construction chaque année de 100 000 logements, 200 000 nouvelles places de crèches supplémentaires, 300 commissariats, un chèque autonomie de 500 euros mensuel à 500 000 personnes âgées, etc., etc. Tout ça aurait pu être financé avec 46 milliards dont on a préféré finalement les offrir en cadeau en grande partie aux grandes entreprises. Et donc c'était un exemple pour rappeler qu'en réalité il y a toujours des choix dans l'action publique et que vouloir les ignorer et faire croire aux gens ce qui est une tromperie, qu'il n'y a pas 36 choix mais un seul et que c'est le choix de l'Europe libérale, que c'est le choix d'un juste milieu centriste qui ne dérange personne et surtout pas les marchés financiers, il faut bien le dire, là, il y a quelque chose qui devient dangereux.
Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonjour. L'ENA, la plus prestigieuse des grandes écoles françaises qui fournit depuis 25 ans les hauts fonctionnaires, la France a des problèmes. Des élèves de l'École nationale d'administration ont tenu leur promesse de l'an dernier. Ils avaient écrit alors, et vous vous en souvenez peut-être, à M. Chaban-Delmas, Premier ministre, pour l'avertir que, quelle que soit leur rang de sortie, ils n'accepteraient pas la hiérarchie qu'on leur propose et qui détermine d'une façon assez forte leur carrière et leur avenir. Bernard Olivier, vous vous trouviez vendredi à l'ENA.
L'École nationale d'administration, l'ENA pour les initiés, C'est ici le temple de la technocratie, l'un des piliers de l'État. L'école a été fondée à la Libération par M. Michel Debré. Aujourd'hui, elle compte 2500 anciens élèves. Ils sont tous au sommet de la hiérarchie administrative. Il n'est pas un cabinet ministériel, une direction de ministère ou une préfecture qui ne compte un ou plusieurs anciens de l'ENA. Mais aujourd'hui, les élèves de la promotion sortante se révoltent. Pourquoi ? Jusqu'à maintenant, les élèves arrivés dans la botte, les premiers reçus au concours, choisissaient les grands corps de l'État, l'inspection des finances, ou bien la Cour des comptes, ou encore le Conseil d'État. Aujourd'hui, ils refusent. D'après votre rang de sortie, on vous proposait un bâton de maréchal, vous avez refusé. Pourquoi ?
Écoutez, parce que par ce geste, je ne prétends pas, moi et mes camarades, avec mes camarades, remettre en cause l'administration ni la réformer. Ce que nous constatons simplement, c'est qu'il serait souhaitable que les élèves à la sortie de l'école choisissent un métier en fonction de leur vocation et des besoins de l'administration.
Plusieurs de mes camarades et moi-même sommes en total désaccord avec le système d'affectation des postes en fin de scolarité. Et personnellement, je ne vois pas de meilleure manière d'exprimer ce désaccord qu'en renonçant au poste auquel mon rang de sortie me donne droit.
Vous êtes conscient que c'est tout votre avenir que vous engagez sur cette décision ?
Mon avenir vaut moins que celui de ces millions de Français qui attendent depuis longtemps de voir leur pays ailleurs qu'entre les mains d'énarques intouchables, au service d'une poignée de nantis qui font bien peu qu'à deux.
Depuis 1972, on ne compte plus les promotions qui ont demandé la suppression du classement de sortie. Cette procédure cristallise toutes les critiques. Elle ne laisserait aucune place à une véritable évaluation qualitative des élèves. Pire, elle limiterait l'exercice de tout esprit critique et favoriserait le carriérisme. Cette année, c'est la promotion Orwell qui a rendu un rapport très argumenté sur ce sujet. Olivier et Pierrick y ont participé.
On est évalué tout au long de ces deux années. Donc, quand on est à Strasbourg et qu'on a des cours, on va avoir des notes. On est noté également sur les stages. Et ensuite, il y a une moyenne de toutes ces notes qui est faite. Et ensuite, les élèves sont tous classés en fonction de cette moyenne. Et donc, les 15 mieux classés vont aller dans ce qu'on appelle les grands corps, que sont le Conseil d'État, l'Inspection Générale des Finances et la Cour des Comptes. Ensuite, les autres iront dans les autres ministères qui sont proposés à la sortie de l'ENA. Donc ces notes ont un impact très important sur la carrière future des fonctionnaires, puisque en général, la carrière est très différente si on sort à l'Inspection Générale des Finances ou si on sort dans les ministères qui sont en général choisis parmi les derniers, qui sont souvent, par exemple, l'Éducation nationale, ce qui est quand même assez triste. En fait, le classement, c'est un véritable marqueur. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on voit dans l'administration, de temps en temps, quand deux personnes de l'ENA parlent entre elles et vont dire « Ah ben, un tel, il est sorti à l'ENA, il est sorti dans tel ministère ». Et en fait, ça, c'est un message entre personnes de l'ENA pour dire « il est sorti bien classé ou il est sorti mal classé ». Donc en fait, le classement et le ministère dans lequel on va sortir ou le corps dans lequel on va sortir, c'est un marqueur qui va durer pendant toute la carrière. Donc il y a beaucoup de gens, en fait, qui, en sortant de l'ENA, vont préférer miser sur ce marqueur plutôt que miser sur ce qu'ils ont envie de faire et ce pour lequel ils ont des dons. Et en fait, à la sortie de l'ENA, il y a des métiers très différents. Il y a des métiers qui demandent à travailler seul sur le droit, c'est le cas des juges. Et il y a des métiers qui demandent, au contraire, de travailler en équipe et de travailler sur des choses très opérationnelles, ce qui peut être le cas d'un directeur de cabinet, d'un préfet. Et en fait, ce système de classement, de marqueurs, puisqu'il faut dire aussi, c'est que ceux qui sont à la fin du classement, ils choisissent pas, parce qu'en fait, ils prennent les postes qu'ils restent, donc ils n'ont pas le choix. Et donc, en fait, ce système de classement, ça peut faire que quelqu'un qui serait, par exemple, un très bon manager, très bon dans l'opérationnel, pourrait se retrouver juge, faire des dossiers administratifs de droit qu'il n'aime pas et pour lesquels il n'a aucune compétence. Et une autre personne qui, elle, au contraire, serait très compétente en droit, qui va se retrouver directeur de cabinet et qui serait très mal à l'aise dans la gestion opérationnelle d'une équipe. Donc, en fait, moi, il y a quelque chose qui me choque parce que je pense que l'objectif de l'ENA, c'est, en fait, de sélectionner les meilleurs fonctionnaires pour la fonction publique, pour l'administration française, c'est-à-dire mettre les meilleures personnes aux meilleurs endroits. Et ça, c'est l'objectif de l'ENA. Et en fait, je pense que l'ENA a oublié l'objectif. Ce système de classement, à ce titre-là, il est tout à fait insatisfaisant. Et c'est la raison pour laquelle nous avions souhaité proposer une autre manière de voir la formation, une autre manière de répartir les postes à l'issue de la formation pour qu'elle corresponde plus à la fois aux envies de chacune des personnes et aux besoins de l'administration. Et donc c'est pour ça qu'on a demandé à une réforme à la fin de ce système de grand corps qui donne ce marqueur dont j'ai parlé et qui en fait détruit l'objectif de l'ENA.
Et encore une fois, il ne s'agit pas non plus de dresser un tableau extrêmement négatif de l'ENA, parce que quelle était la situation qui existait avant l'ENA ? C'était du pur népotisme, c'est-à-dire que le Quai d'Orsay recrutait les fils d'aristocratie qui te jugeaient bon pour devenir ambassadeur, etc. Donc l'ENA, c'est un progrès, mais simplement, aujourd'hui, dans son fonctionnement, elle pervertit une partie de l'aspect qu'on qualifie de méritocratique qui doit guider la sélection des élèves et leur mode d'affectation. Et ça, c'est délétère.
Ce rapport, les étudiants l'ont remis à Nathalie Loiseau, la directrice de l'ENA, ainsi qu'à Annick Girardin, ministre de la fonction publique. Il a été enterré, comme toutes les tentatives précédentes.
Alors cet après-midi, j'ai rendez-vous au Sénat avec Corinne Bouchou, qui est sénatrice du Maine-et-Loire, qui est membre d'Europe Écologie Les Verts. Et Corinne Bouchou, donc, qui est professeure en sciences économiques et sociales, diplômée de Sciences Po Paris et docteur en histoire. Et donc, en tant que sénatrice, elle a préparé une proposition de loi concernant l'ENA. Excusez-moi, l'entrée, c'est par là ? Merci. Bonjour, madame. J'ai rendez-vous avec Corinne Bouchou, Pascal Bascarello, je suis journaliste pour France Inter.
Je ne pense pas qu'il faille supprimer l'ENA. Dans tous les pays, on a besoin de grands corps, d'administrateurs, de grands administrateurs de qualité. Donc, je pense que l'idée qui consisterait à supprimer l'ENA est une fausse bonne idée. En revanche, il ne faut plus laisser les énarques dans l'entre-soi. Il faut rapatrier la formation des énarques à l'université et leur faire faire un vrai travail de recherche, y compris les familiariser avec un petit peu la culture scientifique, parce qu'on ne fera pas demain la transition énergétique avec uniquement des énarques qui sont extrêmement pointus en droit ou en économie, c'est un leurre. On pourrait, à l'aide de ce qu'on voit dans nos grandes universités qui ont des chercheurs formidables, on pourrait former autrement nos énarques, notamment quant à la question du doute, si vous voulez. Lorsque vous faites un doctorat, lorsque vous faites de la recherche, vous êtes en permanence à essayer de comprendre, d'expliquer comment ça marche, qu'est-ce qui se passe, quels sont les phénomènes, et vous êtes dans une analyse, on va dire, de la subtilité et de la finesse. Donc je pense que notamment dans le domaine du numérique, dans le domaine des sciences du vivant, de la biologie, de ce que sont les OGM, la culture sur les risques sismiques, la culture sur le nucléaire, la culture du changement climatique, sur tous ces sujets, il faut faire beaucoup plus qu'un vernis de façade, il faut vraiment une formation solide pour nos futures élites, avec la révolution numérique, avec toutes les révolutions que nous connaissons. On ne peut plus aujourd'hui être dans une société où, à 23 ans, une vie est faite et une carrière est faite. Et donc, je pense que si l'on forme autrement les énarques, qui sont plutôt globalement des gens intelligents, cultivés, eh bien, nous pourrions, pour le bénéfice de tous, avoir une société peut-être moins basée sur la compétition, parce que c'est ça, l'ENA, le rang de classement à l'entrée, le rang de classement à la sortie, mais où on travaillerait plus sur la coopération plutôt que sur la compétition. Alors, moi j'ai un grand souvenir d'une loi qui me tient très à cœur. Nous avons voté au Sénat la loi Blandin sur les lanceurs d'alerte. Et on a réussi de manière assez rock'n'roll et un peu chaotique, on a réussi à la voter.
C'est une loi justement pour protéger les lanceurs d'alerte, hein, lorsqu'ils dénoncent ce qui se passe mal dans leur entreprise ou dans leur administration.
Exactement. L'idée était de dire, on constate qu'il y a des gens formidables qui sont des lanceurs d'alerte et ensuite ils n'ont que des catastrophes et des soucis. Et donc on s'est dit, comment est-ce qu'on peut protéger ces personnes qui, pour aider la société, veulent dénoncer un fait grave, un dysfonctionnement. Et donc, il me souvient que nous avons un petit peu bu un coup pour fêter la loi Blandin et nous avions cru que nous avions gagné. En réalité, le plus dur commençait, parce qu'il manquait les décrets, et donc il fallait notamment mettre en place une haute autorité qui devait protéger les lanceurs d'alerte. Et donc là, nous avons constaté deux types de rétention à laquelle les énarques ont été extrêmement actifs. On a compris après pourquoi. En fait, il fallait nommer des membres pour chaque administration pour composer ce comité. Et en réalité, des grands ministères, notamment, je crois dans mon souvenir, l'agriculture et le Conseil d'État, tardaient à désigner celui qui siégerait dans cette instance. Donc évidemment, tant que l'instance n'était pas complète, elle ne pouvait pas commencer à siéger. Et là, j'ai commencé à comprendre avec mes amis que, en réalité, dans la haute fonction publique, on ne voulait pas de cette autorité, pourtant vertueuse et plébiscitée par tous, parce qu'elle allait compliquer, on va dire, la vie d'un certain nombre de personnes. Sur le principe, on nous soutenait, mais en fait, en réalité, dans les faits, on n'était pas d'accord avec nous. Mais en réalité, on a mis 3 ans entre le vote de la loi et, on va dire, le moment où elle est opérationnelle.
Et pourquoi ça enquiquinait tout le monde ?
Bien, c'est ce que j'ai découvert au Sénat. On est un pays terriblement latin. On essaye d'être de plus en plus vertueux. On essaye d'être de plus en plus transparent. Il y a plein de choses qui vont dans le bon sens et c'est encourageant. Néanmoins, cela résiste face à cette transparence. Donc voilà, tout ce qui vise à expliciter des liens, tout ce qui vise à clarifier des situations où il y a du trouble, eh bien, il y en a qui considèrent que ça gêne.
Est-ce que vous avez pu discuter justement avec ces énarques qui avaient tenté de détricoter la loi ?
Oui, ça m'est arrivé. Alors, moi, j'allais dire, mes copains énarques, ils sont toujours dans la fonction publique, c'est ceux dont on parle pas. C'est les 95% qui ne font pas parler d'eux, qui défendent le service public, qui défendent l'intérêt général. Après, oui, ça m'est arrivé de rencontrer à des soirées privées des personnes qui m'ont expliqué que nous étions, nous écologistes, des illuminés. Et que notre sens de la transparence était en fait dangereux et qu'il pouvait porter préjudice aux intérêts des entreprises. Et d'ailleurs, il ne manquait pas de m'objecter ce qui sera à mon avis un sujet de vigilance pour nous tous demain. Ce qu'on a créé qui s'appelle la vie privée des entreprises. Déjà maintenant, on a créé ça au Conseil d'État, la vie privée des entreprises. Et puis c'est surtout ce qu'on appelle le secret des affaires. Et là, si vous voulez, si on applique le secret des affaires avec une vision extensive, ah ben, il n'y a plus de lanceurs d'alerte parce qu'il n'y a plus rien à communiquer. On fait des bunkers, on supprime l'information, on réduit le droit d'investigation à néant. Certains, parfois, ont une conception étriquée de l'intérêt général et très extensive du secret des affaires.
Pour terminer cette émission consacrée à un sujet ô combien sensible en France, on a pensé qu'un regard extérieur, le regard d'un étranger sur ce phénomène de l'ENA était utile. Bonjour Michaela Wiegel.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante en France du grand quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung et vous avez consacré un long article il y a quelques temps déjà à l'ENA. Qu'est-ce que représente pour un observateur étranger tel que vous l'ENA ? Qu'est-ce que l'ENA a de si français finalement ?
Oui, il y a une certaine fascination vue d'Allemagne avec cette institution à chaque fois qu'il y a une grande entreprise française ou un gouvernement français qui se constitue, on découvre cette espèce d'être humain nouveau qui s'appelle l'énarque et on se dit mais qu'est-ce que c'est qui fait que la France a un lieu où est formée une bonne partie de son élite économique et politique. Donc le regard est devenu beaucoup plus critique vis-à-vis de l'ENA. Il convient de nuancer toujours parce qu'il peut y avoir bien sûr des grandes personnalités qui ont joué un grand rôle en France qui n'ont pas été formées par l'ENA, mais c'est vrai que nous, après la Deuxième Guerre mondiale, la rupture était telle qu'on s'est dit il faut vraiment qu'on varie en quelque sorte les voies de formation et on a considéré qu'il fallait surtout éviter d'avoir, même le terme d'élite à l'époque était devenu quelque chose de péjoratif. Aujourd'hui, ça a un peu changé et du coup, on a quand même regardé avec intérêt comment ça se passait, quelle était la conception derrière l'ENA. Il y a par exemple une école à Berlin maintenant qui s'appelle la Hertie School of Governance et qui s'inspire en quelque sorte du fait que En tous les cas, pour l'élite politique, il faut quand même une sorte de formation pour qu'on ait les mêmes références, qu'on ait une stratégie commune. Ce qu'on a établi, et ça tout de suite après la guerre, c'est une fondation qui porte le nom, la Fondation pour le peuple allemand, qui a pour objectif d'envoyer les meilleurs élèves, ça commence après le bac, mais aussi les meilleurs étudiants, de les envoyer notamment aux États-Unis. Donc on a un petit peu fait une formation d'élite, mais qui se passait à l'étranger. Donc c'est assez intéressant qu'il existe quand même des voies de formation, mais c'est un peu plus caché. C'est pas, il n'y a pas une institution comme l'ENA en France. Non, on n'a pas reproduit la même chose. Tout cela est beaucoup plus informel et décentralisé. Et je crois que ça correspond assez bien aux différences qu'on constate entre les deux pays. En France, quelque chose de très centralisé dans son organisation et de très visible aussi. On a vu quand on a voulu abolir en France cet concours de sortie de l'ENA, il y a eu une levée de résistance et qu'on n'a pas pu le faire puisqu'on considère que c'est le classement, c'est quelque chose qui reste très important, alors qu'en Allemagne, il n'y a pas de classement, mais il n'y a pas absence d'élite non plus. Il ne faut pas se leurrer, mais c'est beaucoup plus divers. On n'a pas cette habitude, d'ailleurs, ça m'intriguera toujours. En France, on est très souvent renvoyé, même quand on a déjà beaucoup de carrière professionnelle, renvoyé à sa formation. Et d'ailleurs, on le voit même dans la présentation de leurs dirigeants politiques. On regarde toujours quelle était leur formation et justement, est-ce qu'ils ont fait l'ENA ou pas. Ce n'est pas du tout le cas en Allemagne, c'est-à-dire à partir d'un certain moment. C'est important d'avoir fait des bonnes études pour entamer une carrière professionnelle, mais à partir d'un certain moment, on regarde surtout ce que la personne en question a fait pendant sa carrière professionnelle. C'est quand même plus simple de juger les gens à travers leurs expériences. Ça crée un sentiment d'appartenance beaucoup plus fort que la sélection toujours par les études qu'on a fait.
Merci Michaela Wiegel. C'était ENA, le miroir de la République. Un reportage de Pascal Pascariello. Mixage Pascal Bénard. Réalisation Anne Lioro avec le concours de Juliette Accus. Et c'est cette semaine Lucille Valérie qui gère la page internet d'Interception. Je vous souhaite une très bonne journée.